particulièrement emblématique. 95% des...
Radio G. 101.5 FM.
Les voix de l'écho.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les voix de l'écho du mercredi 4 mars 2026. Aujourd'hui, nous allons parler d'images, mais pas seulement d'images au sens esthétique, nous allons parler d'identité, de regard, de ce que l'on montre et surtout de ce que l'on révèle. Mon invité est photographe pour entreprises et particuliers à Trélazé. Sa baseline est claire, presque manifeste, authenticité et créativité pour sublimer votre image. Et pour m'accompagner dans l'émission du jour, nous avons en ligne avec nous Alexis Desjeux. Bonjour Alexis, est-ce que vous nous entendez bien ? Alexis ? Oui ? Non ? Ah, attendez. Vous entendez Alexis ? Non. On a un petit souci avec Alexis, c'est pas grave. À moins que si j'enlève ça, vous nous entendez Alexis ? Non, non plus. Eh bien, c'est pas grave. On reprendra Alexis tout à l'heure. Dans l'émission, on le retrouve normalement dans une dizaine de minutes. Et avec nous, avec également le chef Hervé Chéneau. Bonjour chef, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Yves, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais arrêter de vous raconter des salades, Yves.
Ah ben, j'espère bien, pour une fois.
Voilà, je vais vous parler de salades tout en un.
Tout en un. Ah, très intéressant. On vous retrouve en deuxième partie d'émission, chef. N'oubliez pas, dans le prolongement des voix de l'écho, juste après nous à 13h sur l'antenne de Radio G, retrouvez l'émission des métiers de l'ombre animée par Fabien Bertrand. Une photo, ce n'est pas juste une image figée, c'est un miroir, un espace de confiance, un moment où l'on accepte d'être vu pour de vrai. Mais comment aide-t-on quelqu'un à se voir autrement ? Comment capte-t-on l'authenticité dans un monde saturé d'images filtrées ? Comment transforme-t-on la mixité en force créative ? Chers auditeurs, auditrices, laissez-vous sublimer par l'objectif. Je reçois aujourd'hui la photographe Chloé Manceau.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Bonjour Chloé, bienvenue dans le studio de Radio G.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Alors Chloé, vous définiriez aujourd'hui comment, en quelques mots, le métier de photographe pour vous, c'est quoi ?
Alors le métier de photographe, ça peut sembler un petit peu cliché, mais évidemment bah, c'est de l'humain. En tout cas pour ma part qui photographie des personnes. C'est aussi une vision créative, jouer avec la lumière, jouer avec les couleurs, jouer avec les matières. C'est toute une partie accompagnement également. Voilà, je pense que ça résume bien.
Et aujourd'hui, vous vous considérez plus comme photographe, entrepreneur, artiste, créatrice, c'est un peu tout ça ?
Un peu tout. Je peux difficilement faire la part. Je sais que je suis dans la créativité, mais j'aime aussi les objectifs. Donc, j'ai un côté très entrepreneurial que j'assume pleinement. Parce que pour pouvoir continuer à photographier des personnes, évidemment, il faut être aussi bonne gestionnaire d'entreprise.
Effectivement. Alors, quel a été votre déclic qui vous a donné envie d'être photographe ?
Alors, la photographie est une passion vraiment de longue date. J'ai commencé les autoportraits adolescentes. J'ai fait mes stages de troisième, donc ça remonte à quelques années, chez un photographe déjà. Donc, c'était vraiment un attrait que j'avais pour ce métier. Toutefois, c'était pas forcément un métier vers lequel on était orienté à cette époque. Le côté artistique, l'indépendance, on ne poussait vraiment pas vers ça. C'était plutôt aller vers un CDI, quelque chose d'assez stable et un peu dans les cases. Et en fait, j'ai repris cette passion il y a maintenant 8 ans, je pense. Vraiment par plaisir, pour faire autre chose que travailler et m'occuper de ma famille. Donc j'ai repris des cours dans une association à Trélazé. Et puis, bien, de fil en aiguille, j'ai voulu travailler un petit peu plus. Donc j'ai fait des shootings de mon côté. Je me suis formée également beaucoup en ligne. Et puis est venu le jour où on m'a demandé un shooting un peu plus conséquent. C'était pour un EVJF, je me souviens très bien.
Okay. Et enterrement de vie de jeune fille, on précise.
Oui, tout à fait. Enterrement de vie de jeune fille. Et du coup, ça représentait une certaine somme. Et je me suis dit, pour être plutôt honnête et sur un pied d'égalité avec mes confrères photographes, eh bien, ça y est, je lance mon entreprise.
D'accord.
Et de fil en aiguille, voilà, ça a commencé à faire un peu l'effet boule de neige.
Ouais, ça c'est top. Et alors, est-ce que votre regard sur les gens a changé depuis que vous êtes derrière l'objectif au quotidien ou pas du tout ?
Je ne sais pas si mon regard sur les gens a changé. Je pense qu'effectivement, j'ai un regard qui est plus approfondi. Probablement, je creuse un peu plus finalement derrière l'image pour pouvoir mieux les photographier. Et avant, s'il y a quelque chose qui a changé, c'est que au début, quand j'ai commencé, j'avais tout le temps peur de rencontrer de nouvelles personnes. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, vraiment, j'avais une appréhension. Et maintenant, c'est très naturel, très instinctif, et c'est vraiment un plaisir.
D'accord. Alors, comment vous décririez votre univers visuel, tout simplement, pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, Chloé ?
Alors, mon univers visuel, je dirais que c'est un univers qui est assez intense. J'aime beaucoup travailler sur les contrastes, même si je m'adapte toujours à la personnalité, il est assez doux et joyeux. Hein, c'est un petit peu finalement les mots qui me représentent quand je parle de mon activité. C'est vraiment faire ressortir ce qu'il y a de plus beau chez les personnes par l'image.
D'accord. Alors vous avez dit tout à l'heure que vous avez repris la photographie dans une association, donc à Trélazé. Est-ce que vous avez l'habitude aussi de collaborer avec d'autres photographes ?
Je ne dirais pas que c'est forcément une habitude. Toutefois, je trouve qu'on entretient plutôt des bonnes relations avec les photographes en juin. Donc, et on peut être amené à collaborer sur du matériel, sur des prestations quand les uns et les autres ne sont pas disponibles. C'est plutôt dans ce cadre-là. Aujourd'hui, j'ai pas eu l'occasion de, par exemple, d'être deux photographes sur un shooting de mariage, par exemple.
D'accord.
Mais voilà.
Ok. Et vous avez un collectif qui existe ou même pas du tout pour les photographes ou ça n'existe pas en fait ?
Alors c'est un peu old school, mais on a un groupe Facebook notamment. Voilà, dans lequel on peut échanger sur différentes problématiques ou comme je le disais sur des indisponibilités, sur le matériel, sur des événements.
Vous êtes donc basé ici, sur Angers. Est-ce que vous bougez un petit peu à l'extérieur de la ville ou même du département ?
Oui, ça m'arrive régulièrement de me déplacer, en général jusqu'à une heure et demie. Je vais pas mal à Nantes, Le Mans, Cholet. Plus exceptionnellement, ça peut m'arriver de faire des déplacements plus lointains. Par exemple, j'ai Paris, Lyon, voilà, pour des occasions particulières. Si on a envie de me faire venir, c'est toujours avec plaisir.
D'accord. Chloé, je vous propose de faire un premier jeu dans l'émission. Ça s'appelle la boussole métier. Donc, 5 questions pour comprendre simplement ce qu'est le métier de photographe. Est-ce que vous êtes prête ?
Oui.
On y va, je lance d'abord un petit jingle.
Here we go !
Alors, pour la boussole métier, je vais mettre un petit timer. Est un peu de pression dans le jeu. Et vous posez donc ces questions. Alors, quelles sont les racines personnelles, culturelles ou familiales qui influencent le plus votre regard artistique ?
C'est une difficile question. Je dirais que c'est assez personnel, effectivement, sur le fait d'avoir eu besoin de travailler mon image, mon regard sur moi-même.
D'accord. Quelle émotion cherchez-vous avant tout à provoquer à travers une photo ?
c'est très différent selon l'objectif de la photo, que je travaille avec des pros ou des particuliers. Sur les particuliers, notamment sur les ensembles couples, famille, ça va être faire ressortir les liens, ce qui les unit, ce qui fait qu'ils sont ensemble. Et pour les pros, eh bien, bah, ça va être de pouvoir valoriser son image professionnelle au service de sa communication.
D'accord. Quelle prise de risque avez-vous osé prendre ces dernières années qui a changé un peu votre trajectoire ?
Je ne sais pas si je dois en parler dès à présent, mais du coup, j'ai créé une autre branche de mon activité.
D'accord. Ok, on en reparlera tout à l'heure, effectivement. Qu'aimeriez-vous transmettre aux générations suivantes à travers votre travail, éventuellement ?
Effectivement, c'est un point qui m'est très cher quand je photographie des familles ou des nouveau-nés, de me dire que ça fera partie de leur héritage plus tard et qu'ils pourront avoir ces souvenirs d'être entourés d'amour. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
Ouais. Et enfin, quand on enlève l'appareil photo, qui est Chloé ?
Quand on enlève l'appareil photo, Chloé, c'est à peu près la même personne en peut-être un peu plus festif, mais voilà, je reste, je pense, assez moi-même dans les shootings comme à l'extérieur, et c'est ce qui m'importe, c'est de pouvoir créer un lien qui soit authentique avec mes clients. Donc, je suis une personne douce et joviale aussi en dehors.
Ok, super, merci beaucoup Chloé pour vos réponses.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, on va essayer de réavoir Alexis. Alexis, est-ce que vous êtes là? Ah non, je n'arrive pas à joindre Alexis. Alors attendez, on va refaire différemment. Est-ce que Hervé, vous pouvez me redonner le... Alors oui, sans le dire forcément à l'antenne, le numéro d'Alexis des Jeux. Allez-y. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Voilà. Bon, c'est d'habitude, ça se passe pas comme ça, ça se passe un peu. Alors, est-ce que ça sonne ou pas ? Non, toujours pas. Bon. Bon, on n'arrive pas à voir Alexis au téléphone. Je sais pas s'il nous entend. On a fait un test tout à l'heure. Ça marchait. Bon. C'est pas grave. On va avancer. Si vous voulez, on peut faire votre chronique, Hervé. Oui. Hop. Attendez. Hop. J'ai fait juste ça. Hop. Voilà. OK. On va voir maintenant un petit peu comment ça se passe en cuisine, et j'espère que vous n'allez pas nous raconter des salades, comme à chaque fois. Hervé, c'est la chronique du chef Hervé Chénaud.
De la fourche à la fourchette, une chronique du chef Hervé Chénaud.
Alors mon cher Yves, je voudrais faire une petite aparté avant de vous raconter des salades. Pour vous dire que Chloé, j'ai eu l'occasion d'offrir à ma fille Cécilia un cadeau pour des photos en fait de couple avec leur petite fille, et ça a été super, parce que la preuve c'est qu'on voit les photos partout dans le salon, salle à manger, dans leur chambre, enfin voilà, donc tout ça c'est encadré. Merci Chloé au passage. Donc je vais vous parler de salade de fenouil à l'orange, Yves. Et saumon à l'unilatéral. Alors pourquoi ? Parce que cette recette, elle a beaucoup de succès. J'ai trouvé ça dans un magazine, je l'ai réalisé avec des amis qui sont tombés par terre.
Ah oui, ils sont carrément tombés par terre.
Ah, ils sont tombés par terre, ils sont tombés de la chaise, ça a été incroyable. Donc je vous raconte cette recette. Faudra pas la répéter à la radio, Yves.
D'accord.
S'il vous plaît.
Ça va rester entre nous.
Donc pour 4 personnes, préparation 40 minutes, jusque là ça va, cuisson 15 minutes. Il vous faut 4 pavés de saumon de 150 grammes avec peau, 4 bulbes de fenouil de taille moyenne, 4 oranges, 2 fruits de la passion, 1 citron, 20 centilitres de yaourt à la grecque, une cuillère à café de baie rose, vous notez Yves, hein, 3 brins d'aneth, 3 brins de ciboulette, 3 brins de menthe, huile d'olive, sel, fleur de sel et poivre.
Miam, miam, miam.
Miam, miam. Donc, dans un premier temps, lavez les bulbes de fenouil et coupez-les en tranches très fines. Pressez le citron. Dans un saladier, mélangez 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. De la bonne huile, Yves. De la bonne huile d'olive.
Essayez de faire des jeux de mots, là.
Oui. Avec le jus du citron, salé et poivré, ajoutez les lamelles de fenouil fines et mélangez le tout. Pelez à vif les oranges avec un couteau. Placez ensuite une orange au creux de votre main, puis faites glisser la lame du couteau le long de la membrane jusqu'au centre. Procédez ainsi pour chacune des membranes. Les quartiers doivent se détacher tout seuls. Faites de même avec toutes les oranges. Bon, ça a l'air de vous interroger, Yves. Vous inquiétez pas, je vous ferai un petit atelier.
Ah ben, j'espère bien.
Ajoutez les suprêmes d'orange dans le saladier, couvrez de film alimentaire et réservez au réfrigérateur. Préparez la sauce. Lavez et ciselez les herbes. Attention, je suis très exigeant avec le ciselage des herbes. Si ça se passe pas bien, vous sortez de ma cuisine.
D'accord. Avec un couteau ou avec des ciseaux?
Ah non, les ciseaux, vous rigolez, ils restent dans le tiroir, les ciseaux. C'est un couteau qu'il faut.
D'accord.
Bon. On coupe comme une lame de rasoir. Dans un bol, mélangez le yaourt avec les herbes, salées et poivrées. Ajoutez quelques baies roses concassées. Attention Yves, je parle de sel de poivre, mais de la vraie fleur de sel et du poivre en moulin. Pas un vulgaire sel de 20 ans ou de 15 ans, bien entendu.
Et un poivre spécifique ou celui qu'on veut?
Ah, le poivre de Timut. Ah, on en reparlera de celui-là.
Ah bah j'espère bien.
Avec des odeurs d'agrumes séchés, pamplemousse et orange.
D'accord.
J'adore.
Parfait.
C'est top. Il est pas donné, mais franchement, ça vaut le coup.
Oui, mais en même temps, le poivre, c'est quelques coups de moulin. Voilà.
Oui, quelques coups de moulin, et ça va vous changer d'avis. Voilà. Vous allez voir.
Super.
Alors, versez un filet d'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive. Ah, non, je pourrais vous reparler des poêles aussi. Les longs, les fins, les grands, etc. Faites chauffer à feu moyen. Déposez les pavés de saumon côté peau dans la poêle. Montez ensuite légèrement la température et saisissez les pavés 8 à 10 minutes. Ils sont cuits lorsque la peau est croustillante et la chair encore rosée. Très important, ne cuit pas en totalité le saumon. Retirez la peau des pavés. Vous pouvez faire un pull, pourquoi pas, si vous voulez, avec ça, avec la peau des pavés. Et coupez-les en cubes. Parsemez-les de fleurs de sel et de baies roses concassées. Coupez les fruits de la passion en deux et récupérez le jus et les graines dans un bol. Et croyez-moi, quand vous mettez le nez sur le fruit de la passion, c'est extraordinaire. Dressez la salade de fenouil sur un grand plat de service. Répartissez les cubes de saumon tiède. Moi, je les préfère froids. Sur le dessus, arrosez du jus des fruits de la passion et ajoutez les graines. Servez accompagné de sauce au yaourt. Il nous manque quand même quelque chose, Yves. Avec ça, un bon petit gaillac blanc frais.
Consommer avec modération, bien évidemment.
J'ai une petite question pour Chloé, bien sûr. Chloé, connaissiez-vous cette technique de cuisson à l'unilatérale?
Oui, je connaissais.
Super. Donc la meilleure qualité de cette cuisson-là, c'est vraiment de cuire trois quarts et d'arrêter la cuisson pour que ce soit qu'on ait le tranchant cuit et non cuit.
Effectivement, toute la subtilité de garder ce côté rosé.
Ouais. Et c'est, enfin voilà. Et je vois déjà Yves qui tire la langue.
Ouais. J'en bave. Merci beaucoup, chef, encore pour cette chronique qui nous donne encore une fois l'eau à la bouche. Bon appétit à toutes et à tous.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors Chloé, en introduction, j'ai parlé de votre baseline, hein, qui est donc authenticité et créativité pour sublimer votre image. Qu'est-ce qui se cache derrière ce petit slogan?
Eh bien, ce slogan, il indique que chaque personne qui va passer derrière mon objectif est unique et que l'objectif, in fine, c'est de pouvoir mettre en valeur son image sans se fourvoyer. C'est de réussir à partir de ce qu'on est, de ce qu'on a à donner, à en faire quelque chose de beau et qui puisse permettre d'atteindre ses objectifs. Que ça soit de se créer des souvenirs, mais aussi que ça soit des objectifs professionnels, de pouvoir attirer les clients qui nous ressemblent et qui nous conviennent.
Oui, parce que finalement, chaque photographe a aussi sa patte. Et des fois, bah, ça peut ne pas matcher avec la personne, avec son client. D'ailleurs, beaucoup de personnes se sentent souvent mal à l'aise devant un objectif, ou en tout cas face à un objectif. Comment vous les accompagnez pour qu'ils révèlent leur vraie personnalité?
Eh bien, déjà, je les rassure en amont du shooting. Je leur donne pas mal de conseils, ce qui leur permet déjà d'arriver en sachant à peu près quoi faire et comment être déjà dans les meilleures dispositions. Et puis, c'est aussi prendre le temps d'échanger, de recevoir. Parfois, on va me confier des éléments physiques avec lesquels on n'est pas à l'aise, etc. Donc, c'est vraiment de prendre un temps d'écoute. Et aussi, durant le shooting, moi, je montre en général les photos au fur et à mesure pour qu'on puisse travailler. Et la personne peut déjà, en voyant sur l'appareil, se dire « Ah, mais en fait, je suis bien ». Donc déjà, ça enlève un poids au fur et à mesure de se dire « Ah, mais C'est bon, on peut continuer. Et on sent souvent sur les photos que les expressions et les mouvements se détendent et deviennent plus naturels au fur et à mesure.
Ouais, c'est-à-dire que même quand vous resélectionnez les photos, finalement, les premières, c'est un peu du rebut. Et puis, on garde que les dernières, quoi.
Alors, on a parfois des bonnes surprises quand même sur les premières.
D'accord.
Effectivement, les personnes se détendent au fur et à mesure. Et c'est là que c'est vraiment important de prendre le temps, même si j'ai tendance à être plutôt efficace pendant mes shootings. Donc, le fait de se mettre à l'aise se fait quand même relativement rapidement. Et j'en suis assez heureuse, assez honorée.
C'est top. Quand un entrepreneur vient vous voir, est-ce qu'il sous-estime un peu son image pro? C'est-à-dire, est-ce que justement, la plupart des pros se prennent en photo tout seul et puis se disent, c'est bon, ça le fait, j'ai pris la photo moi-même et ça va le faire.
Effectivement, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui franchissent ce cap d'avoir commencé leur communication homemade, je dirais, fait maison, et qui ont envie et qui se rendent compte que professionnaliser sa communication, eh bien, c'est montrer vraiment que on est investi dans son activité et vouloir monter en gamme dans son approche.
Comment vous arrivez à, donc vous avez parlé que vous détendiez les personnes, mais est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir du mal à capter une émotion spécifique que vous cherchez à avoir?
Effectivement, il peut arriver que ça soit un petit peu plus difficile. Mais comme je dis toujours à mes clients, l'objectif, c'est avant de partir, d'être sûr qu'ils ont la photo qu'ils souhaitent.
D'accord.
Donc, je ne lâche pas. Ça peut m'arriver de déborder un peu, c'est très rare, mais je n'accepte pas l'échec.
Ça veut dire que vous proposez quand même plusieurs versions de photos que le client, après, derrière, peut prendre à sa guise. Comment ça se passe après en termes de droits? Comment il peut les utiliser? Est-ce que vous cadrez un peu tout ça ou...
Alors effectivement, c'est cadré. Il y a différentes possibilités de droits. Tout est possible. Après, en fait, tout va être une question de tarifs, évidemment. Ça se budgétise. Mais l'objectif, et moi, ce qui me rend le plus fier, c'est que ça puisse être utilisé sur tous les supports possibles et une communication large, que ça soit une photo de profil LinkedIn ou couverture de livre, par exemple. Les possibilités sont multiples.
Le plus important, c'est que vous soyez cité, bien évidemment, et crédité sur la photo. Ou en tout cas dans le descriptif, quoi.
Effectivement, c'est l'idéal. Malheureusement, c'est pas toujours le cas.
Ouais.
Mais
vous sensibilisez un peu vos clients, non, pour le faire ou...
Oui. Il y a une communication. Enfin, j'essaye d'être assez rigoureuse dans ma communication, que ce soit écrite ou verbale. Donc, oui,
okay. C'est comme... Est-ce qu'il y a une séance photo qui vous a particulièrement marqué, que vous avez dit waouh, voilà, je m'y attendais pas du tout.
Alors j'ai plein de séances photos qui m'ont marqué, mais je pense que ce qui me touche le plus à chaque fois, c'est quand je suis quelqu'un de très empathique et ça peut m'arriver de pleurer dans des mariages. Et je sais que j'ai des mariés pour lesquels j'ai eu beaucoup pleuré.
Ah oui, d'accord.
De joie, bien évidemment.
Oui, j'espère bien. Ok, je vous propose, Chloé, de faire une pause musicale maintenant dans l'émission. Donc nous allons écouter One Track Mind de Naika. On reparle de ce choix musical avec vous juste après. Bonne écoute sur Radio J.
Blind, didn't see the context that I fell for a boy with a God complex. Really had me working overtime, 'cause I've been doing all of the sacrifices. Vampires sucking on my patience. I don't know, don't ask me, I don't know how one can be so cold. Baby, you're so cold. Who made them pseudo? It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind.
out tonight. I'm gonna bring back focus to mine. Oh, la gaily, la gaily. If you say you love me, tell me why, baby, why do you make me cry? What about the things that you told me last night? Give you all my loving and you gave me goodbye. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, mind, mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, mind, mind. Full speed, on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind. He's a one-track mind. Gade chéri, ou pa vle tande, ou pa wè janti gason sa pa merite ou. Ou gen twa pshine chéri, ou twa fly, dili bye bye baby, nou son lot bagay.
La geli, la geli, la geli ou.
Pa vetize, pa vetize.
La geli, la geli, la geli ou.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours en direct sur Radio G à l'écoute de l'émission Les voix de l'écho. Je suis en compagnie de mon invité, la photographe Chloé Monceau. Et nous venons d'écouter One Track Mind de Naïka, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Chloé, pourquoi avoir choisi ce titre musical? Dites-nous tout.
Eh bien, j'ai choisi ce titre déjà parce qu'il est assez dansant. Il me donne envie de bouger, mettre bonne humeur. Et aussi parce que, eh bien, il est très multiculturel. Et je trouvais que ça me parlait vachement, que ça soit pour la photo sur le côté assez unique. Mmh. Et sur l'activité dont on parlera juste après, le mélange des cultures, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui me porte. Donc voilà, voilà pourquoi ce choix.
Et du coup, c'est ce qui vous anime aujourd'hui profondément, ce mélange de cultures ou...
Effectivement, c'est quelque chose qui est très présent en moi en ce moment. Je pense que voilà, il y a un petit travail identitaire et le fait de réunir tout ce qui me constitue et de m'ouvrir aussi aux autres cultures, c'est quelque chose qui me motive actuellement.
D'accord. Vous êtes donc photographe pour les particuliers et les entreprises. Est-ce que vous avez la même posture? Parce que ce sont quand même deux univers différents.
Alors, la posture diffère légèrement. Toutefois, il y a l'aspect de professionnalisme qui, que ce soit avec les particuliers ou les professionnels, qui me tient vraiment à cœur d'accompagner, de guider. Donc ça, c'est quelque chose que je maintiens avec les deux. Ce qui va pouvoir être différent, évidemment, c'est dans les formulations, dans la présentation en termes de tenue vestimentaire, dans le vouvoiement, alors qu'avec des clients particuliers, on va essayer de se tutoyer. Mmh. Voilà, c'est vraiment ce qui va différer, mais il y a une ligne de conduite globale qui est le professionnalisme, aussi bien dans le avant, pendant et après.
D'accord, et aujourd'hui, vous diriez que vous êtes plus avec des particuliers ou avec des pros, ou c'est vraiment très saisonnier finalement?
Alors c'est même pas tant saisonnier, ça tend à s'équilibrer. En fait, j'ai été en double activité pendant 2 ans et demi, donc j'avais que des particuliers puisque la semaine je travaillais dans cette entreprise. Et quand je suis passée à temps plein, là j'ai commencé à développer la partie professionnelle. Et comme ça fait maintenant 4 ans et demi, ça tend vraiment à être à l'équilibre.
D'accord. Et alors comment vous l'avez construit justement votre clientèle, surtout avec un métier à côté au départ?
Eh bien, ça a été pas mal de... au départ, c'était beaucoup les réseaux sociaux. J'avais pas encore de site. Le bouche à oreille. Je n'arrêtais pas d'en parler partout autour de moi. Donc, voilà, on m'envoyait le cousin, l'ami, la sœur, etc. Et ensuite, bah, j'ai commencé à avoir une présence web avec un premier site web que j'ai fait moi-même, que j'ai dû faire en 3 versions. Il m'a pris un temps fou. Avant de le professionnaliser en le confiant à une professionnelle, j'ai beaucoup travaillé le référencement, etc. Et puis, j'ai utilisé aussi LinkedIn et aussi beaucoup bah, les réseaux. D'accord. Réseaux professionnels.
Les réseaux physiques.
Oui, physiques.
Ouais. D'accord. Vous êtes dans beaucoup de réseaux physiques aujourd'hui ou pas du tout?
Alors, je ne suis pas adhérente à un réseau. Je fais partie du bureau de Anjou Déjeuner Business. Mmh. Sinon, tous les autres réseaux, j'y vais plutôt en tant qu'invitée actuellement. Mmh. J'ai fait partie des entrepreneuses angevines pendant quelques temps. Et aujourd'hui, je suis un peu en recherche du réseau qui allie toutes mes envies de convivialité, d'humain, mais aussi d'objectifs commerciaux. Donc voilà, pour l'instant je suis en observation, mais j'aime bien aussi découvrir plein de manières de fonctionner et plein de personnes différentes.
D'accord. Quelle a été votre plus grande difficulté à aujourd'hui dans votre parcours entrepreneurial? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vraiment a été difficile à traverser?
Alors, ce qui a été et ce qui l'est toujours, c'est l'équilibre pro-perso. Je plaide coupable, je bosse énormément et je le sais parfois au détriment de temps en famille. C'est un peu j'ai vraiment du mal à couper et à m'arrêter.
Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué hein, quand on est indépendant. Est-ce que vous avez parfois quand même douté de votre légitimité, même si ça fait, donc vous l'avez raconté en début d'émission, depuis que vous êtes toute petite, que vous aimez l'image et la photo?
Évidemment, évidemment, beaucoup au début. Ça peut m'arriver encore aujourd'hui. Je parlais de la partie pro qui se développe et je commence à toucher des plus grosses structures en termes d'entreprise. Et effectivement, les premières fois, j'avais un peu plus d'appréhension. Mais pour autant, c'est un défi que j'adore, justement, cette exigence qui est encore plus accrue. Le fait de devoir, souvent, on est quand même un peu plus mis en concurrence, je dirais. Et de devoir tirer son épingle du jeu, argumenter ses prix, etc. Ça s'est bien passé. Donc, en fait, c'est une validation du fait que c'est bon, en fait.
Ouais. Et est-ce que l'intelligence artificielle, ça vous fait peur ou pas? Parce que vous parlez justement là de concurrence. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils, il y a des choses qui sont assez bluffantes. Comment vous voyez les choses?
Alors, pour moi, l'IA, ce n'est pas une concurrence aujourd'hui. Alors déjà, c'est un outil que moi-même, j'utilise dans ma pratique. Donc, c'est plutôt un gain de temps et d'énergie, d'efficience. Et par ailleurs... l'IA ne remplacera jamais l'humain. Et je pense que c'est ce qui, j'aime à le croire, me différencie aussi, c'est ce côté contact humain, ce conseil, cette approche. Pour moi, en fait, alors mon entreprise, du coup, on l'a pas encore cité, c'est les instantanés de Chloé. Parce que pour moi, l'instant est aussi important que le résultat même du shooting. On vivra jamais un instant avec l'IA comme avec moi.
Ça c'est évident, ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que je vous ai pas posé la question si vous aviez un nom commercial ou c'était juste votre nom, prénom, parce que ça c'est aussi possible hein, dans les milieux artistiques. Je vous propose de faire un second jeu dans l'émission, quelque chose d'un peu plus simple je pense. Pour ce deuxième jeu, c'est un vrai faux express. Est-ce que vous êtes prête?
Oui.
Ouais, pareil. Allez, petit jingle. Comme tout à l'heure, je vais mettre un petit timer, histoire de mettre un peu de pression, même s'il n'y en a pas. Vous prenez le temps que vous voulez pour répondre, mais juste vrai ou faux, rien d'autre. Une bonne photo dépend avant tout du matériel utilisé.
Faux.
L'authenticité peut se mettre en scène.
Vrai.
Tout le monde est photogénique, mais tout le monde ne le sait pas.
Vrai.
Une retouche photo enlève forcément de la sincérité à une image.
Faux.
L'image professionnelle d'un entrepreneur influence directement la confiance qu'on lui accorde.
Vrai.
La créativité naît souvent des contraintes.
Vrai.
Les réseaux sociaux ont amélioré notre rapport à l'image.
Faux.
Une séance photo réussie repose plus sur l'échange humain que sur la technique.
Vrai.
On peut être authentique tout en maîtrisant totalement son image.
Vrai.
Et enfin, aujourd'hui, savoir se montrer est devenu presque aussi important que savoir faire.
Vrai.
Super. Merci beaucoup, Chloé, pour vos réponses.
Avec plaisir.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, on va réessayer. Est-ce que Alexis Desjeux nous entend ?
Oui, très bien.
Génial, ça fonctionne. Eh bien, c'est parfait. Je vous lance vos petits jingles et on y va. C'est pour vous, c'est le temps de votre chronique. Une nouvelle chronique sur votre thème actuellement qui est l'ego.
Mieux vivre ensemble avec assertivité. Une chronique d'Alexis Desjeux.
Bonjour, chers auditeurs, quel que soit votre genre, votre obédience et autres croyances toutes personnelles. Aujourd'hui, je continue mon chemin sur l'ego et l'assertivité. On a vu comment l'ego se construit, comment il peut nous saboter. Aujourd'hui, on va parler de solutions. Comment apprivoiser cet ego? Comment en faire un allié plutôt qu'un tyran?
Alors Alexis, concrètement, par où on commence justement quand on veut travailler sur son ego?
Par l'observation, Yves. Simplement observer sans juger. En fait, je vais reprendre l'exemple de Sophie, cette responsable marketing qui ne sait pas dire non. La première étape, c'est qu'elle repère le moment précis où elle sent la frustration monter dans son corps. Ce vendredi à 18h, quand son directeur lui demande de refaire le dossier. Qu'est-ce qu'elle ressent physiquement? Une boule au ventre? La mâchoire qui se serre? En fait, c'est son corps qui lui dit « Attention, ton ego d'enfant prend le volant ». À ce moment-là, elle peut choisir consciemment de répondre autrement. Au lieu de dire oui automatiquement et de s'abaisser, elle peut dire « Je comprends l'urgence. En revanche, j'ai déjà des engagements ce week-end. Je peux vous proposer de traiter le dossier mardi matin en priorité, si ça vous convient. » Vous voyez, c'est l'assertif. Elle reconnaît le besoin de l'autre, je comprends. Elle pose sa limite, j'ai des engagements. Elle propose une alternative, mardi matin. Son ego n'a plus besoin de se sacrifier pour exister. Le philosophe uruguayen José Mujica, qui est l'ancien président le plus pauvre du monde, nous rappelle cette vérité fondamentale. Pour vivre, il faut travailler, c'est un fait. Tu achètes simplement avec le temps de ta vie. Quand Sophie dit oui à tout, elle achète l'approbation de son chef avec le temps de sa vie, avec sa santé. Un ego sobre, comme dit Mujica, libère du superflu pour des relations plus vraies.
Et si on prend l'exemple de quelqu'un d'autre, par exemple celui qui a besoin de dominer, on avait eu Karim une fois dans une chronique, comment il peut changer ça?
Ben oui, Yves, excellente question. Karim doit comprendre que son ego cherche à se protéger de la vulnérabilité. Quand il impose son point de vue, c'est parce qu'au fond, il a peur. Peur de ne plus être le meilleur. Peur de perdre sa valeur. Un exercice puissant pour lui. En réunion, comptez jusqu'à 3 avant de répondre. Je dis bien, comptez jusqu'à 3 secondes. Dans cet espace, Karim peut se poser plein de questions. Est-ce que je réagis par ego, par peur donc, ou par réelle conviction? Souvent, on découvre que 80% de nos réactions sont de l'ego pur. Ensuite, Karim peut pratiquer cette phrase magique. Dis-moi en plus. Oui, quand sa collègue propose une idée, au lieu de contrer immédiatement, il dit « Ok, c'est intéressant, dis-moi en plus sur ta vision ». Cette simple phrase fait 3 miracles. Elle dégonfle l'ego. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Elle valorise l'autre. Ton point de vue m'intéresse. Et elle ouvre au dialogue. On va co-construire ensemble. Fais également penser à un cas récent. Julien, qui est un manager dans une unité, une entreprise des nouvelles technologies. Enfant, son père était militaire, autoritaire et fort. Julien a développé un ego réactionnel. Il doit toujours avoir raison pour ne pas être faible, comme il se sentait face à son père. Un jour, lors d'une formation que j'animais, je lui ai fait vivre l'exercice du « et si c'était vrai ?» Je m'explique. Une collaboratrice lui dit « Julien, tu ne nous écoutes pas. » Au lieu de se défendre, « Mais si, si, je vous écoute, je vous écoute. » J'ai demandé à Julien « Et si c'était vrai ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Et si c'était vrai que tu ne nous écoutais pas ?» Julien a eu un silence. Il a réfléchi et il a réalisé. Ça voudrait dire que je reproduis ce que mon père faisait avec moi. Il a pleuré. Il a pris conscience. Son ego n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit.
Oui, donc en somme, maîtriser son ego, c'est favoriser sa relation à l'autre. C'est un peu ce que vous nous dites, Alexis. Est-ce que vous avez d'autres clés complémentaires pour nos auditeurs ?
Oui, je vais emprunter à la sagesse de Lao Tzu qui résonne. Il nous dit, Lao Tzu, 300 ans avant notre ère, « Celui qui dirige les autres est peut-être puissant, mais celui qui sait maîtriser lui-même a encore plus de pouvoir. » En fait, Julien a découvert que maîtriser son ego, pas l'écraser, le maîtriser, lui donnait infiniment plus de pouvoir relationnel que de dominer ses équipes. Pour Nadia, la développeuse, qui se fait toute petite, le chemin est un peu différent, mais elle doit réapprendre à habiter son ego. Un exercice concret. Chaque jour, elle exprime un désaccord, même minuscule. Par exemple, je trouve que cette police d'écriture, elle n'est pas optimale pour la lisibilité sur un mobile, parce qu'elle est en train de travailler sur une application mobile. Ça peut paraître insignifiant, mais pas du tout. Son ego réapprend qu'exprimer sa différence n'entraîne pas un danger. En fait, progressivement, Nadia, elle peut aller vers des enjeux plus importants. Je ne suis pas d'accord avec cette architecture technique. Et voilà pourquoi elle s'explique. Nadia peut comprendre que son ego isolé, invisible, est une prison. Mais un ego relié, qui s'exprime dans le respect, la connecte aux autres. L'assertivité, c'est exactement ça. Un ego qui connaît sa valeur, son arrogance, qui reconnaît celle des autres sans s'effacer. C'est dire « je » clairement, « je ressens de la colère quand tu m'interromps », plutôt que « tu es méchant ». Là, ça c'est agressif. Ou se taire. Là, c'est être passif. D'ailleurs, Miguel Ruiz nous le dit bien dans un de ses accords Toltec, « ne le prends pas personnellement. Ça devient une libération pour chacun de nous. Quand mon collègue critique mon travail, ce n'est pas moi qui l'attaque. C'est un résultat professionnel qu'il évalue. Mon ego n'a pas besoin de monter au créneau ni de s'écrouler. Quand on cesse d'être obsédé par notre image, notre valeur, notre place, on devient enfin libre de vraiment rencontrer l'autre. Allez, prenez soin de vous et de vos proches, faites les choses avec plaisir, audace et envie si ça vous branche. Belle journée et une question à notre invité Chloé, photographe. Avez-vous une situation où un client a critiqué votre travail et comment avez-vous réagi ?
Oui, cela m'est arrivé, effectivement. Alors, initialement, c'était pas le travail en lui-même qui avait été remis en question. C'était plutôt une mauvaise compréhension de l'offre. Ça m'a beaucoup marqué, effectivement. J'ai plutôt été dans une posture de dialogue et de proposer un geste commercial en admettant la part de responsabilité qui indiquait que nécessairement, je n'avais pas été suffisamment claire pour que ça soit bien compris par le client. Et voilà, j'ai plutôt été dans cette démarche-là.
Merci.
Merci beaucoup.
Ça m'est facile de faire taire ton ego.
Ah oui, ça, c'est sûr. Ça. Merci beaucoup, Alexis, pour cette chronique par téléphone. Et puis, j'espère vous revoir d'ici 15 jours dans notre studio.
Avec plaisir.
À bientôt.
Merci.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors Chloé, pour cette dernière partie, j'aimerais qu'on parle justement donc de la maison carrée et de la mixité des identités, pardon, j'allais dire des entités. parce que vous avez donc depuis un an, je crois à peu près, donc vous êtes aussi donc la créatrice de Maison Carrée. Comment est née cette aventure et qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, maison carrée, c'est tellement de paramètres. En fait, évidemment, je me suis posé la question parce que je savais que vous alliez me la poser avant d'arriver. Et je me suis dit, mais enfin, ça naît de vraiment beaucoup de choses. Déjà, ça naît de mon histoire à moi, puisque, alors, je suis française, née à Angers, mais, eh ben, comme on peut le voir de ma couleur de peau, j'ai aussi des origines guadeloupéennes, qui ont fait que, eh bien, j'ai dû grandir quand même avec une identité qui se porte sur moi. Mais j'ai pas grandi avec ma famille de ce côté-là, donc j'avais une certaine rupture entre ce qu'on attend de quelqu'un de métissé et ce que je vivais réellement. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur le côté entrepreneurial, eh bien, ça va bientôt faire 7 ans que je suis photographe et bah, j'avais besoin de nouveaux défis parce que bon, même si je travaille beaucoup, visiblement, j'avais besoin aussi de renouvellement. Et puis, il y a aussi le côté image finalement qui se rejoint avec la photo sur l'aspect vestimentaire cette fois. Où j'aime ce qui est original, j'aime la qualité, j'aime aussi faire attention à mes choix de consommation et donc consommer moins mais mieux. Et tout ça réuni, ça a créé Maison Caillerie, qui est donc une marque d'upcycling et de customisation de vêtements qui célèbre la diversité.
D'accord. Et ça signifie quoi, Caillerie?
Eh bien, Caillerie, c'est né d'une concertation entre mes amis entrepreneurs de longue date et moi-même. Et à force de réfléchir à des sonorités, tout ce que j'avais envie de transmettre, eh bien, c'est le nom Caillerie qui est ressorti.
Ouais, parce que pour nos auditeurs et auditrices, hein, donc Caillerie, c'est K-A-I-R-E-E. Voilà, donc on est un peu comme une maison de couture, c'est ça?
Exactement. Voilà. L'idée, c'était de, il devait faire ressortir et le côté qualitatif, assez haut de gamme en réalité, parce que on travaille sur de l'artisanat, sur du fait main, sur la qualité est très importante pour moi. Et puis le côté aussi exotique, c'est des sonorités qu'on peut aussi entendre un petit peu par ailleurs.
D'accord. Et alors, en quoi Maison Caillerie est-elle finalement un prolongement ou une évolution de votre travail photographique?
Eh bien, comme je le disais, ça va être sur la partie image, confiance en soi, accepter son unicité, accepter aussi sa couleur, parce que c'est aussi un sujet, le côté ouverture aux autres, c'est tout ça.
D'accord. Alors, vous parlez du côté un peu upcycling, donc éco-responsable. Comment vous, tout simplement, vous choisissez vos matières et comment vous les récupérez?
Alors, ce qui est récupéré aujourd'hui, ce sont les pièces de base, c'est-à-dire que je chine des vêtements, que ça soit en friperie, que ça soit en ligne. Mes choix se portent sur la qualité des matières, sur la qualité des coupes, c'est les deux principales, et puis sur l'originalité, parce que il faut déjà que de base la pièce ait un beau potentiel. Et ensuite, les tissus aujourd'hui, ils ont été achetés. Alors, on parle des tissus aujourd'hui, j'utilise du wax et du madras, d'ailleurs je précise parce qu'on l'avait pas dit. Ils ont été achetés en commerce sur Angers, donc là aussi l'idée c'est de partir sur des tissus de vraiment de qualité, hein. Le wax, on peut avoir différentes qualités, donc c'est vraiment de viser l'excellence. Et le madras que j'ai utilisé, c'est un tissu qui a été à la base utilisé pour réaliser des rideaux. Mais il est très important pour moi ce tissu, parce que c'est ma grand-mère maternelle qui les avait réalisés. Et donc je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir redonner vie sur des créations. Et dernier point, les personnes peuvent aussi venir avec leurs propres vêtements qu'ils ont envie de faire évoluer vers une pièce unique.
D'accord, merci beaucoup Chloé. On arrive déjà à la fin de cette émission. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que l'image n'est jamais superficielle et qu'elle est justement sincère. Merci beaucoup, chef, d'avoir été présent. Merci Alexis Desjeux à distance pour sa chronique également. Vous venez d'écouter Les Voix de l'Écho sur Radio G 101.5 FM en DAB+ ou sur radio-g.fr. Merci à l'association Champ contre Champ pour la production de cette émission. Retrouvez tout de suite Fabien Bertrand pour l'émission des Métiers de l'Ombre et son invité du jour, Christelle Ricoubouillet, alias Madame Frenchy, sur les réseaux sociaux qui proposent des voyages linguistiques immersifs à Angers. Si vous avez manqué le début de l'émission, retrouvez le replay sur le site de Radio G. On se retrouve le 18 mars 2026 pour une émission spéciale croisée avec justement Fabien Bertrand et les Métiers de l'Ombre. Et d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur Radio G.
Radio G. 101.5 FM.
Merci beaucoup Yves. Et oui, bonjour et bienvenue dans votre émission bimensuelle Les Métiers de l'Ombre, qui met en lumière, un mercredi sur deux, ces héros de l'ombre, invisibles mais indispensables à notre quotidien. C'est à 13h, juste après Les Voix de l'Écho, sur Radio G 101.5 FM. Et n'oubliez pas, chaque voix mérite d'être entendue. Mais qui sont-ils vraiment ? Eh bien, ce sont ces personnes qui exercent des métiers discrets, parfois méconnus, mais essentiels à notre quotidien. Derrière chaque entreprise, chaque association, chaque grand projet, il y a ces petites mains qui font toute la différence. Alors je vous propose de rencontrer l'un de ces passionnés, de découvrir son métier, son parcours et ce qui le fait vibrer. Un instant pour lever le voile et donner la parole toutes les deux semaines à l'un de ces